Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Next Door, le podcast qui fait découvrir des curiosités de plein de gens différents. Et puis, pour commencer, je le fais surtout avec des Lyonnais, vu qu'on est à Lyon, et surtout avec des gens qui m'inspirent moi et qui méritent d'être connus plus largement. Cette semaine, je suis avec Simon. Simon, qui est entrepreneur sur Lyon, il travaille dans une start-up qui aide à améliorer l'expérience de visite d'appartements dans l'immobilier. Et quelque chose qui pourrait paraître très technique cache au fond une envie de recherche, de voir comment est-ce qu'on peut améliorer la société. Et Simon est quelqu'un qui va vraiment chercher dans tout type d'inspiration, dans la lecture, dans l'expérimentation directe, dans le mouvement physique. C'est quelqu'un qui a besoin de s'exprimer. Et ben c'est exactement ce qui va se passer dans ce podcast. Et c'est quelqu'un aussi qui va vous inspirer. Avec ces trois curiosités, vous allez voir, qui sont la décentralisation. Donc là, pour certains, ça peut être très flou, mais vous allez voir que ça va devenir plutôt clair. Ensuite, l'ego. Et puis l'amour de soi. Deux derniers sujets assez liés. Et vous allez voir. On rentre encore à chaque fois dans quelque chose d'assez intime avec ces discussions. Je suis très 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 heureux de pouvoir en faire. Et puis je vais continuer, hein. Et puis j'espère que ça vous inspire aussi. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à me contacter si vous voulez qu'on discute ensemble. Voilà. Je vous laisse sans plus attendre avec Simon et cette discussion qu'on a eu la chance de partager tranquillement installée dans l'herbe, dans les pentes de Fourvière. Voilà. Bonne écoute et puis à très bientôt. Bonjour Simon.
Bonjour Fabrice.
C'est cool que tu sois venu avec moi te perdre dans les pentes de Fourvière.
C'est un plaisir.
Sur la piste de descente de vélo. Il fait beau, il fait chaud, soleil.
On est bien.
C'est un bon moment pour avoir une petite discussion de 1 heure pour le podcast.
Tout à fait.
Cool. Et ben, j'aimerais bien déjà que tu nous en dises un peu plus sur toi, qui tu es, qu'est-ce que tu aimes faire. Et puis après, on attaquera tes trois curiosités.
Eh bien, je m'appelle Simon, je suis à Lyon depuis bientôt 3 ans. J'étais revenu pour les études et il y a quelques temps, il y a environ 1 an maintenant, j'ai arrêté mes études pour me consacrer à mon entreprise, Lumio.
Lumio. Et Lumio, vous faites quoi avec Lumio?
Lumio, on fait principalement de la visite virtuelle. On crée une plateforme, on a pour ambition d'apporter un petit peu de transparence et d'efficience au marché de l'immobilier.
D'accord, ok. Améliorer un peu le marché de l'immobilier.
Exactement.
Cool, très bien. Eh bien écoute, on va rentrer directement dans le vif du sujet.
Allons-y.
Quelle est ta première curiosité?
Bon alors, il y en a trois comme le veut le concept. La première, c'est la décentralisation. C'est un sujet dont on a déjà beaucoup parlé, toi et moi, et qui me fascine complètement. Je suis rentré dans ce questionnement-là il y a 1 an en découvrant le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Et en fait, très très rapidement, j'en suis venu à appréhender de quelle manière ça pouvait venir changer le modèle, la construction de la société dans laquelle on est, la manière dont on construit, dont se crée la valeur.
Ok. Comment tu définirais toi du coup ce concept de décentralisation?
Ben, ça dépend un petit peu à quel niveau on se place. Ça dépend un peu à quel niveau on se place. Pour moi, de manière assez générale, enfin en gros, quand je réfléchis à la décentralisation, je fais souvent le parallèle avec on a eu les entreprises classiques, ce qu'on appelle les firmes. Ensuite, on a eu les entreprises un petit peu moins classiques que sont les plateformes qui ont optimisé Internet.
Les plateformes, on pourrait dire du coup Facebook, Google.
Complètement. En gros, une plateforme, c'est une entité qui met en relation des producteurs de valeur et des consommateurs de la valeur. L'exemple typique, c'est Uber, parce qu'on parle souvent d'ubérisation. Ce qui est un petit peu le phénomène qui vise les plateformes a priori quoi.
Ok, d'accord.
Et du coup, la blockchain et la décentralisation, eh ben, je vois ça comme la prochaine étape.
D'accord.
Je vois ça comme la prochaine étape parce qu'elle va permettre en gros de le, 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 les plateformes sont géniales aujourd'hui parce qu'elles ont permis des choses, elles ont permis des rapprochements, elles ont permis de la mise en relation, de l'intermédiation, mais elles en ont profité pour aspirer une majorité de la valeur. Donc tu as Amazon qui offre un service fou, mais qui monopolise de la donnée, qui monopolise un service et qui détruit des industries. Et est-ce que dans mon modèle de décentralisation, eh ben, on a les mêmes services, on a la même efficacité, mais on a un partage de la valeur qui est équitable et qui est horizontalisé.
D'accord. Et ça, c'est permis du coup par la technologie, le fait de pouvoir gérer ça.
C'est permis par la technologie et c'est permis par des prises de conscience aussi.
Ok. D'accord. Et donc le monde de demain, il ressemblerait à quoi par rapport à cette décentralisation? Il est beau.
Il est beau.
On n'est pas dans la dystopie du coup, dans ta manière de penser, dans un monde qui du coup devient complètement inhabitable.
Si on fait les choses comme il faut, non. Si on fait, en gros, je trouve qu'on est dans un point super intéressant. Parce qu'on est à un moment où on peut tout faire très bien et le monde va être très beau, ou alors on va faire de mauvais choix et ça risque de partir en couille. Mais on arrive à un point de convergence où tu as l'intelligence artificielle qui arrive, où tu as de la robotique, où tu as une prise de conscience de l'intérêt de l'intérêt de choses qu'on ne prenait pas du tout en conscience, qui sont le bonheur, qui sont la recherche de sens, et qui sont des structures. Et où on arrive à un point où la technologie va enfin, pour moi, permettre d'offrir une infrastructure, d'offrir une base qui soit vraiment plus saine à tout ça. Et c'est effectivement, quand tu poses la question par rapport à la blockchain, je pense effectivement que la blockchain, elle peut faire ça, puisqu'elle peut permettre de faire en sorte que de donner des libertés de coder la confiance. C'est ça que j'aime dans l'idée de la blockchain, c'est que tu peux coder la confiance.
Qui ne connaîtraient pas la blockchain, ça te fait un exercice aussi pour l'expliquer rapidement.
Qui
est jamais bien simple, mais
je pense que ça sert à... Déjà, je ne le ferai pas assez bien, donc je pense que ça ne sert à rien d'expliquer ce qu'est la technologie, mais je pense que le plus important, en fait, c'est d'expliquer ce qu'elle permet. Et c'est un petit peu l'exercice auquel je m'applique ces derniers temps. Ce qu'elle permet, en gros, c'est de désintermédier. C'est de créer une interface de confiance qui est c'est par la technologie de créer un intermédiaire de confiance.
D'accord.
La propriété de la blockchain, c'est de... je me perds un petit peu. En gros, on va prendre l'exemple d'Uber. Uber, le rôle qu'il joue, ou Airbnb, le rôle qu'il joue, c'est que tu vas, toi, faire confiance à cette entité. Mm-hmm. Tu vas lui mettre ta confiance, tu vas lui donner ta donnée, tu vas lui donner ton argent, et elle va t'apporter un service. Et en gros, tu fais confiance en cette personne-là. Ce que va permettre la blockchain, c'est que tout est inscrit sur la blockchain, donc l'identité de chacun peut-être inscrit sur cette base de données. Ça crée de la donnée, il y a de la donnée qui est complètement immuable, complètement qu'on ne peut pas changer, donc la fraude est plus ou moins impossible. Et ça va être un moyen de maintenir en fait l'identité de chacun sur une interface.
Ok. Et moi, comme je comprends aussi par rapport à ce que tu viens de dire au niveau du tiers de confiance, et que je n'avais pas encore réfléchi dans ce sens-là d'ailleurs, c'est de se dire que, comme tu dis, Uber ou Airbnb, c'est un tiers de confiance. La confiance est créée comment? Par le fait que ça soit une grosse plateforme, que ça soit des paiements sécurisés, qu'il y ait des recommandations, qu'il y ait beaucoup de gens qui utilisent tout ça. Mmh. Et en fait, on est encore sur un modèle très ancien, comme le fait qu'on parlait entre deux personnes. Et puis pour dire « Ok, on est d'accord », eh ben on serrait la main. Et quand on serrait la main, ça voulait dire « Ok, je te fais confiance ». Et à partir de ce moment-là, on était dans une relation de confiance. Et ce que ces plateformes ont créé, c'est des serrages de main avec beaucoup, beaucoup de monde par rapport à une grosse force d'image et une grosse prestance. Mais en même temps, ils se retrouvent à centraliser de l'information et de la donnée et de pouvoir l'utiliser.
Ouais.
Et là, avec des réseaux comme la blockchain et la décentralisation, on se retrouve à avoir le code, donc quelque chose qui est neutre, qui est purement factuel, qui peut être découvert par tout le monde parce que l'information est transparente et justement le fait que ça soit décentralisé, c'est que c'est accessible par tous,
Ouais,
que c'est porté
complètement.
par tous. Et du coup, il peut y avoir des interactions, par exemple, entre deux personnes, et eux, de se serrer la main, elles inscrivent dans du code l'information qui est liée
C'est
à
ça.
ce sur quoi elles doivent se faire confiance, et à ce moment-là, hop, c'est encapsulé.
Exactement. Et
Et
le serrage
donc,
de main, il se fait grâce à une clé privée et une clé publique
voilà, c'est ça.
sur un
Et
portefeuille.
du coup, plus besoin d'avoir de notaire, par exemple, pour un accord, pour acheter un terrain, parce qu'on met toutes les informations qui sont liées au terrain dans les informations du code, et c'est encrypté et encapsulé avec un code partagé. Moins besoin d'avocat aussi, parce que du coup, toutes les considérations légales, elles peuvent être aussi accordées
Elles
dedans.
peuvent être codées.
Et un des points aussi où j'avais réfléchi récemment, c'était le côté que c'est une personne qui m'avait dit ça par rapport aux lois. Il me disait, passé un temps, sur un certain secteur, les bouquins de loi d'un certain secteur, c'était 25 pages, et puis 50 ans plus tard, c'est 300 pages. C'est devenu ultra complexe, la partie légale,
Bien sûr.
parce que tu es obligé de prendre en considération tous les champs possibles et imaginables. Parce que la manière de gérer la loi et la légalité est centralisée. Donc il faut qu'ils prennent en considération tout. Là, l'avantage avec des réseaux décentralisés, ça serait que chaque bout de réseau qui collabore et qui doit avoir un tiers de confiance peut régler ses propres règles et ses propres lois
Complètement.
les uns avec les autres. Et c'est complètement mobile et modifiable.
Tout
Du
ce qui
coup,
peut être écrit
ça
de manière complètement
simplifie.
objective,
Voilà, c'est ça.
exactement, ouais.
Et donc du coup, on se
Exactement.
retrouve à avoir, grâce au code, un tiers de confiance objectif pour
C'est ça.
relier l'interaction entre deux humains.
Et ce qui est génial, c'est que une des images que j'aime bien, c'est que là, le point commun à tout ce dont tu parles, c'est qu'il y a un transfert d'informations. Et quand on y réfléchit, en fait, du moment où on se lève le matin au soir, quand on va se coucher, eh ben, on est entouré de ce genre de petites interactions, de ce genre de petites actions où tu as un transfert d'informations. Le matin, tu vas te lever et tu vas recevoir un SMS, tu vas recevoir un mail, tu as une notification Facebook, tu as peut-être une réponse qui t'est donnée par rapport à un séjour que tu as réservé pour le week-end qui arrive. Après, tu vas regarder les informations sur Internet ou à la télé ou même à la radio. Et tout ça, le point commun, c'est que cette information, elle va passer par quelqu'un en qui tu fais confiance pour te donner cette information. Ça peut être ton fournisseur de service internet, ça peut être ton fournisseur, ça va être ton câble, ça va être Canal+, ça va être tout ça. Et ce qui va être génial dans la société vers laquelle on se dirige, mais encore une fois, c'est si on fait les bons choix,
Ouais.
c'est que tout ça peut être fait de manière complètement décentralisée. Et c'est-à-dire qu'on va
Objectivé, ouais.
objectiver, merci. On va objectiver le tout parce que tu vas avoir quelqu'un qui va émettre l'information et quelqu'un qui va la recevoir, et ces deux personnes-là vont l'avoir choisi complètement, et ça va pas être faussé. Ça peut régler le problème des fake news, ça peut régler énormément de soucis, et ça peut, plutôt que un des gros problèmes dont je parlais assez brièvement tout à l'heure, c'est que toutes ces personnes-là, elles le font dans un but lucratif, dans un monde capitaliste. Et du coup, ça a pour effet de fausser un petit peu ces transferts d'informations. Surtout qu'on est sur des transferts d'informations en masse. Et ces personnes-là qui ont la main, qui ont la clé, elles vont privilégier en fait un transfert d'informations, de l'information qui va générer le plus de cash. C'est pour ça qu'on a des problèmes de fake news, c'est pour ça qu'on a des problèmes de clickbait, c'est pour ça qu'on entend parler de toutes ces choses-là. Et dans un monde où on a enlevé cet intermédiaire qui lui va tout faire, qui lui a le contrôle et va tout faire pour gagner de plus en plus d'argent, et bien là on va vraiment avoir des cycles qui vont être réduits et quelque chose de beaucoup plus linéaire et de beaucoup plus direct.
Ok. Et donc on se retrouve dans un monde qui ressemble à quoi?
Ça, c'est tellement complet. Il y a
Bah
tellement
oui, non mais après là
de critères.
je
Ouais, il y a
m'amuse à te
tellement de.
demander une
Bah ouais.
prospective de gens
Je m'y risquerai
qui
pas.
écrivent des
Je
bouquins
m'y risquerai
futuristes
pas.
ou c'est sûr que c'est un peu compliqué, mais en tout
Non, parce
cas.
qu'on pourrait partir dans deux sens. Hein. On pourrait partir dans deux sens. Hein. On pourrait se retrouver dans 100 ans avec une partie de la population qui est partie sur Mars avec Elon Musk et l'autre partie qui est restée sur Terre et qui se bat avec des robots et des intelligences artificielles. Je sais pas, moi le monde que j'imagine, Et c'est, on va partir sur une notion dont on parlait déjà, toi et moi, la dernière fois, dans la recherche de sens et dans cette dynamique qu'il y a aujourd'hui à chacun à commencer à s'écouter un petit peu plus. Moi, j'aimerais bien, en fait, le monde dans lequel, le monde dans lequel j'aimerais vivre, c'est un monde dans lequel la technologie, la robotique va nous permettre, en fait, d'automatiser une énorme partie des tâches qui sont pas créatives et qui sont rébarbatives et sur laquelle on se casse la tête et sur laquelle les gens qui se cassent la tête dessus, ils le font pour pouvoir vivre, pour pouvoir mettre un toit au-dessus de leur tête. Et le monde un petit peu utopiste que je pourrais imaginer, c'est un monde dans lequel et ben, ces tâches-là, elles ont été complètement prises en charge par d'autres entités. Et que nous, on peut se concentrer sur de la création, sur de la création, sur de l'échange, sur du voyage, sur il y a mille mondes entre le monde dans lequel on vit aujourd'hui et le monde que je décris, mais ouais. Je décide d'y croire quand même.
Très bien,
je
parfait.
Je décide d'y croire quand même.
Moi, c'est un monde qui me va assez. Un monde qui serait centré vraiment sur l'émancipation de la conscience,
ouais.
Et enlever les frictions justement sur cette ouverture de conscience, quoi, qui peut passer par la créativité, par des choses simples, par l'observation, par enfin il y a énormément de types d'émancipation différents, mais justement c'est ça qui est intéressant, quoi.
Ouais, complètement.
Pas de barrière à la curiosité non plus.
Non.
Mine de rien, parce que la curiosité, c'est un peu le sujet
de
Nextdoor.
Ouais.
Et c'est vrai que, tu vois, si je fais un parallèle par rapport à Nextdoor, il n'y a aucune visée commerciale sur ce projet, ni sur les podcasts. Le but du jeu, c'est d'arriver à proposer de la curiosité. Mais mine de rien, des projets comme ça, il y en existe peut-être plein. Mais dans le monde dans lequel on est, ce n'est pas encore quelque chose où tu peux y accéder sans friction.
Non.
Encore une fois, l'accès à l'information et à la connaissance, ce n'est pas non plus encore une facilité. Ce qui pourrait être complètement changé aussi avec ces modèles de réseaux qui sont en train de se construire.
Ah ouais, complètement.
Parce que ça sera structuré différemment.
Bah, ça sera structuré différemment, ça sera structuré d'une manière où la personne qui, comme toi, en gros, ce qui est un autre des aspects super de la blockchain, c'est que tu peux tokeniser n'importe quoi. Tu peux tokeniser tout ce qui peut avoir une valeur et l'attention en est une.
Donc tokeniser, juste pour compléter.
Bah juste tokeniser, c'est en gros de dire, bah là on est en train de parler de l'attention, on est en train de parler de la curiosité, de la valeur, et bah tu vas avoir des gens qui dans une société normale vont vouloir créer du contenu, mais c'est du contenu qui va être où il va falloir commencer à réfléchir à de la monétisation, il va falloir commencer, il faut toujours vivre, il faut toujours manger. Et bah dans le système dans lequel on parle, tu peux effectivement bah, briser ces barrières, briser cette friction et avoir vraiment des gens qui offrent de la valeur comme vous essayez de faire avec Nextdoor et qui reçoivent de l'attention et que cette attention en fait se transforme en quelque chose qui, bah, même si ce qui te compte vraiment pour toi c'est d'apporter cette valeur, c'est d'ouvrir les cerveaux des gens et de leur planter la graine de la curiosité, et bah, tu vas toi aussi pouvoir obtenir en retour de leur attention de quoi vivre, quoi.
Exactement. Bon, bah écoute, allons-y.
C'est la décentralisation.
C'est ça. Bon, vu qu'on était sur la curiosité, du coup, ta deuxième curiosité,
bah, alors, il y en a deux autres.
Ouais.
Il y en a deux autres qui sont… il y en a une avec laquelle je joue depuis longtemps, qui est l'ego. Et la deuxième avec laquelle je joue depuis un petit peu moins longtemps, qui est l'amour de soi. Et… Alors, il faut que je réfléchisse une petite seconde pour savoir comment les aborder.
Il n'y a pas de problème.
Non, mais je crois qu'en gros, je pense que c'est l'ego avec lequel je vais commencer.
Okay.
Parce que l'ego, c'est un truc avec lequel je joue vraiment depuis longtemps. Ça m'a toujours. Ma maman m'a longtemps dit que j'étais égocentrique.
D'accord.
Quand j'étais petit, et ce qui était vrai. Et en fait, en creusant un petit peu, en y réfléchissant et en… En gros, c'est l'ego dans la conception de Freud qui est la manière dont tu te vois. Et j'ai joué avec cette idée parce que bah souvent, quand t'es petit, t'écoutes pas ce que ta maman me dit. Donc, quand elle me disait ça, je me posais pas la question et je continuais d'être moi-même. Mais ce dont je me rendais pas compte, c'est qu'à cette époque, je me voyais d'une certaine manière et le monde me voyait d'une autre. Et les deux ne coïncidaient pas du tout. et c'était cette tension, c'était cette friction qui existait entre les deux qui faisait de moi que j'étais égocentrique. C'est que je voulais vraiment en fait que on me voit pour ce que je me pour la, dans la manière dont je me voyais.
Tu avais une dissonance entre l'image, ton identité propre que tu avais dans ta tête et ce que les autres en lisaient.
Exactement.
De cette identité-là.
Il y avait une barrière énorme entre les deux.
Qu'est-ce que ça veut dire que tu renvoyais t'as détecté ce qui était faussant, ce qui créait cette dissonance?
Ouais, oui et non, parce que c'est une multitude de choses. C'était un manque de confiance en moi, c'était d'être jeune, c'était de pas être conscient en fait, de pas être l'image que j'avais de moi-même était une image fausse, parce que c'était pas l'image que j'avais de moi-même, c'était l'image que je voulais que les autres aient de moi. Donc je voulais qu'on me voie d'une certaine manière et je n'étais pas moi cette personne-là. Et ça a créé des conflits. Et en fait, plus en grandissant et en prenant un petit peu du recul et en m'ouvrant un petit peu aux choses de la spiritualité et en comprenant comment marchait le cerveau, en comprenant notamment le conscient et l'inconscient, ces deux sujets qui ont vraiment de voir qu'il y avait ces deux ou plus voix en moi, ça a beaucoup changé les choses. Mais attends, j'ai perdu le fil de la réponse.
J'ai perdu c'est bien, il faut que ça arrive de perdre le fil, sinon c'est trop facile.
C'est sûr, sinon c'est trop facile.
C'est non, trop la facile. Dissonance, je te demandais comment est-ce que tu as réussi à détecter ce qui crée cette dissonance. Donc tu parlais de problème de confiance en toi, le fait d'être jeune, mais être jeune du coup, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'ego, tu vois?
Être jeune, ce que ça veut dire, c'est que tu n'as pas de recul en fait. Tu as une vision, tu pars d'une vision très très linéaire, tu as une vision très simpliste des choses. Enfin, du moins, c'était le cas pour moi. Pour moi, la vie était très simple. J'étais la personne que j'étais et très fermée et très fixed mindset. En gros, pour moi, j'étais la personne que j'étais et il n'y avait rien qui allait changer. Et c'était juste qu'il fallait que je force en fait. Il fallait que je fasse sortir cette personne-là.
D'accord.
Il fallait voilà, il n'y avait aucune croissance nécessaire de ma part. Et j'avais un objectif. Quand j'avais 16 ans, je voulais être très riche, comme pas mal de gens. Et pour moi, je ne devais pas grandir. C'était le monde qui devait apprendre à reconnaître en fait la valeur que j'avais.
D'accord, oui.
Que j'avais pas encore. Mais que, en gros, je sais pas, c'était aussi une question de tu sais, d'avoir l'impression d'avoir un potentiel.
Oui, c'est ça. C'est un problème assez général.
Ouais.
Mais c'est complètement lié à ton sujet de l'ego, au final.
Complètement. Tout est lié.
Tu parlais du coup, alors si on revient juste sur l'ego, pour avoir ta définition à toi de l'ego, parce que c'est un concept qui est quand même pas simple, et tu partais de la vision freudienne de l'ego.
En gros, l'ego, et il y a quelques personnes qui en écoutant ça rigoleront, parce que c'est un sujet dont je parle vraiment tout le temps, et dès qu'on parle de croissance, j'en reviens à l'ego. Parce que pour moi, l'ego, c'est vraiment ce qui va venir se mettre entre quelqu'un et sa croissance. On va avoir. C'est assez dur à simplifier, mais on va avoir une vision de nous-mêmes qui est d'une certaine manière. Mmh. Et ça, c'est notre ego. Et en fait, il y a plein d'externalités qui vont venir essayer d'interférer et qui vont jouer avec ça et qui vont se mettre en fait, qui vont se mettre entre nous et la personne qu'on pourrait être. C'est-à-dire que la première idée qui me vient en tête, c'est la notion de feedback. C'est que notre ego va se mettre entre le feedback et la croissance. C'est-à-dire que quand on nous apporte de l'information par rapport à notre comportement, par rapport à notre façon d'être, à notre façon de faire, il y a deux réactions qui sont possibles. La première, c'est de se dire pas du tout, c'est pas moi. Je refuse cette idée-là. Je refuse de reconnaître une marge de progression, une marge de croissance dans la personne que je suis. Donc, grâce à l'ego, on va le mettre de côté. Mmh. Ou alors, il y a l'acceptation et de se dire, tiens, j'accepte de ne pas être parfait, j'accepte d'être humain, j'accepte que ce feedback que j'ai reçu, il soit vrai Et effectivement, bah, je vais essayer de faire le travail sur moi. Et je sais que c'est très simplifié et que ça ne se passe pas comme ça en vrai, parce qu'en vrai, quand le feedback il est bien apporté, ça va, on va le comprendre, on va écouter, on va grandir. Mais dans tous les jours, tu as la fatigue, tu as le stress, tu as les interactions, tu as des relations qui sont plus ou moins complexes avec des gens qui vont t'apporter ce feedback qui pourrait te faire grandir. Et du coup, ben, tu as cette... Ouais, t'as cette en gros, je pense que tous les jours, en y regardant d'un peu plus près, tous les jours, il y a l'ego qui... Il y a cette... On va se retrouver dans cette situation où ben, la personne qu'on pense être et la personne que la personne qu'on est, la personne qu'on pense être, la personne qu'on voudrait que les autres pensent qu'on est, ben, ces idées vont vraiment changer et c'est des mini... Enfin, il y a plusieurs bulles en fait qui vont interagir les unes avec les autres, et ce qu'il faudrait viser, c'est une porosité complète,
ouais,
entre les bulles et de vraiment analyser ce feedback et analyser les interactions qu'il y a pour pouvoir en grandir et pour pouvoir apprendre. Mais l'ego en fait vient dresser des barrières entre ces choses-là.
Je vois même dans ta définition de l'ego, hein, aussi une non-porosité, enfin une difficulté de porosité temporelle. Dans le sens où, comme tu disais, l'ego, c'était un peu comme une espèce d'identité. Je reviens à l'identité parce que du coup, ça rejoint pas mal de choses qu'on avait discuté, ouais, avec Arthur dans le podcast d'avant. Ce côté de je me lève le matin, je suis telle personne, j'ai telle identité, c'est moi, ça me définit. Si jamais au courant de la journée, une personne vient chambouler un petit peu des choses par rapport à cette identité, soit du coup j'ai une porosité par rapport à cette identité parce que je sais que c'est en constante évolution de toute manière, et dans ce cas-là je vais récupérer un peu ces avis, ces retours pour créer cette perméabilité et faire bouger ça, soit sinon j'ai vraiment créé une fixation par rapport à mon identité, et donc du coup si une personne me dit tiens, franchement là sur telle action t'as été vachement égoïste et que toi dans ton identité t'as pas du tout de place pour l'égoïsme, et ben ça va complètement te fermer et là tu vas dire non, ouais, ben non, je suis pas quelqu'un d'égoïste, donc du coup non. Ça, c'est bloqué, quoi.
Complètement.
Et c'est intéressant parce que ça rejoint ma définition personnelle de l'ego, qui est plus l'élément de référence en fait, l'élément de pour se fixer.
Ouais, je vois le point de repère.
Le côté individuel, le côté singularité en fait. De dire que si jamais j'avais pas de considération de l'ego, ben il n'y aurait pas de Fabrice en fait. Il y aurait une dissolution dans tous les concepts qu'il y a, tu vois. Vu que j'ai l'ego, je peux être une singularité qui est interconnectée avec plein d'autres choses autour, mais j'ai quand même une position dans tout ça. Et du coup, c'est la position de mon point de vue, et du coup, je peux observer le monde. Si jamais j'avais pas d'ego, je pourrais pas observer le monde, je serais dilué dedans. Donc du coup, c'est un peu plus ça. Et là où c'est intéressant ce que tu dis toi par rapport à ta définition, c'est que ben, j'ai cette singularité, cette position de point de vue et d'observation. Mm. Mais en même temps que j'observe, du coup, j'ai conscience de moi-même aussi.
Ouais.
Et le monde m'observe.
Et le feedback.
Ça. Exactement. Et donc du coup, il y a cette dissonance entre moi, je me considère comme singularité, les autres, l'extérieur me voit comme une singularité. Et hein, est-ce que du coup les deux sont complètement raccord?
C'est super difficile de trouver ce raccord en fait. Et je pense que la croissance en fait c'est la quête de ce rapport-là. Je pense que la croissance c'est bah, déjà de construire cet ego-là, de construire cette personnalité, de construire cette singularité et de quel que soit le sens que tu cherches. Donc il y en a, ça va être dans la création artistique, il y en a, ça va être dans la création entrepreneurial, il y en a, ça va être dans la création d'innovation sociale par exemple. Et le but, je pense, de la croissance, c'est aussi de réduire la distance dont tu parles.
Et ta définition de croissance, c'est comme évolution ou pas? La notion d'évolution?
Dans quelle notion d'évolution?
Je sais pas. Non, mais toi, ta définition de croissance, est-ce que c'est lié à évolution ou est-ce que ton concept, il est un peu différent?
Ah, c'est... Ben, je sais pas, je pense qu'il se place à plusieurs niveaux. Ben, déjà, il y a mon développement. Bah, il y a. Oh, c'est dur comme question. Ouais, enfin, moi, ma définition de croissance, enfin, la raison pour laquelle j'essaie de croître, c'est que plus je progresse, plus j'évolue, et plus j'apporte de la valeur au monde, et plus je peux aider à construire l'idéal, à construire un idéal.
D'accord.
C'est ça que. Et je pense que je pense vraiment que c'est bon pour la recherche de sens à laquelle on devrait tous s'adonner. Et c'est bon pour la recherche de bonheur aussi. Je pense que cette croissance, elle est importante parce que il faut explorer. La croissance, ça veut dire curiosité, ça veut dire exploration. Et ça veut dire de sortir de sa zone de confort et de tester de nouvelles choses et de rencontrer de nouvelles personnes. Et si on pense avoir tout compris, on se ment à soi-même, clairement. Et je pense que la croissance, bah, c'est une manière d'aller chercher cette compréhension et de voir ce qui existe ailleurs et de rencontrer d'autres gens.
C'est intéressant de voir que chacun apporte ses propres termes sur la notion d'évolution. Tu portes croissance, par exemple, tu peux porter évolution. Il y a d'autres qui diront métamorphose, transformation, transmutation. Il y a vraiment plein de termes qui sont assez intéressants sur le fait d'évoluer, évolution, d'évoluer dans la vie, quoi, tu vois. C'est vraiment intéressant et je pense que ça porte beaucoup de sens, vraiment l'usage du mot par rapport à la personnalité qu'on peut avoir ou les choses qu'on peut avoir. Toi, le fait que par exemple toi tu sois dans une démarche entrepreneuriale et que tu aies eu cette évolution par rapport à ton ego, comme tu dis, et ben du coup tu utilises le mot croissance. Le côté grandir, faire grandir quelque chose, faire grandir moi, tu vois, ça, c'est intéressant, quoi. Par exemple, Arthur, quand il parlait de cette dimension d'ego, était plus sur une notion de transformation constante de son identité ou de métamorphose de son identité.
J'adore cette idée-là aussi.
Parce que lui, il s'amusait à faire valser en fait ses différentes identités continuellement pour justement ne pas se fixer sur quoi que ce soit.
Ouais.
Et que c'est en faisant ça qu'il se rendait compte que derrière cette identité, il y avait quelque chose qui observait tout ça.
J'adore cette idée de mouvement. Ouais.
Donc c'était assez intéressant. Ouais.
Ok.
Et ton troisième sujet de curiosité ?
Eh ben, c'était l'amour de soi.
Ouais.
C'était l'amour de soi. Mais ça, c'est un sujet très personnel, en gros. Donc, c'est un sujet très personnel, mais je pense que beaucoup. Je pense qu'on peut l'extrapoler et que beaucoup de gens pourront y trouver du sens. Moi, c'est venu, en fait, d'une période de moins bien dans les quelques derniers mois où je me suis rendu compte. Vers la fin de cette période-là, que j'avais eu très peu d'amour pour moi depuis quelques temps, où beaucoup de choses que je faisais en fait n'étaient pas faites pour les bonnes raisons et je m'étais complètement oublié dans cette histoire-là. J'étais dans la croissance, mais dans son mauvais sens.
D'accord.
Dans la croissance absolue. J'étais en train de me transformer, j'essayais de me transformer en machine, à me tenir à un rythme de fou et à me lever toujours plus tôt le matin, me coucher toujours plus tard le soir, de chercher la productivité à tout prix dans cet intervalle. Et tout ça pour un idéal, tout ça parce que la raison que je m'étais donnée n'était pas du tout mon propre bonheur. Mais la raison que je m'étais donnée, c'était de dire tout ce que je fais aujourd'hui, bah, ça va me permettre de faire, ça va me permettre de faire du bien, ça va me permettre de créer quelque chose, ça va me permettre d'apporter de la valeur, ça va me permettre de changer le monde. Mais ce que j'avais oublié dans cette histoire-là, c'est que pour changer le monde et pour vraiment transmettre quelque chose, il faut avoir quelque chose à transmettre. Sauf que si tu fais pas les choses pour toi, tu peux rien faire pour les autres.
Mmh.
Et ça, je l'avais complètement oublié. J'étais dans un cycle en fait que moi je trouvais productif, mais qui en réalité n'était pas tant que ça parce qu'il était très destructif. C'est-à-dire que j'avais des fortes périodes de productivité qui enchaînaient de fortes périodes de destruction. Et c'était un cycle assez malsain vu de l'extérieur. Je pense que ça pouvait être bien perçu parce qu'au final c'était des comportements normaux. Hein. c'était euh, C'est le comportement qu'on attend de nous, quoi. C'est de travailler à fond et de faire la fête à fond et de faire, faire le con à fond. Et en fait, en se perdant complètement et en oubliant et en justifiant. Et en justifiant par des raisons qui n'étaient pas les bonnes. Et du coup, là, cette notion d'amour pour moi, elle est super importante parce que c'est ce que j'essaie de chercher, en fait. J'essaie de chercher un équilibre beaucoup plus sain et avec moi au centre. Et même si ça peut paraître un petit peu égoïste et égocentrique, si en ayant moi au centre j'ai écouté un super truc qui s'appelle Impact Theory avec Tom Bilyeu, et il invite un mec qui s'appelle Preston Smiles. Et ce que dit ce gars-là qui a complètement résonné en moi, il dit you have to fill your own cup before you fill other people's cup. Et c'est cette notion de bah, si ton verre est vide, tu n'as plus d'eau à donner à qui que ce soit d'autre. Du coup, il faut. Moi, j'ai envie de. Je pense que ma raison d'être, elle est vraiment de faciliter, pas forcément au même sens que toi, de facilitation, mais de. J'ai envie d'aider des gens à exploiter leur potentiel, j'ai envie d'aider des gens à trouver, à réussir leur quête de sens. Et leur quête de création et leur quête de créer du bien. Mais si j'ai pas de bien en moi, si j'ai pas d'amour en moi et que je fais tout pour des raisons factices qui sont en dehors de moi-même, eh ben tu peux pas réussir parce que c'est pas viable, tu peux pas aller très loin comme ça.
C'est intéressant cette notion d'amour de soi, surtout ce que tu as dit après, je trouve. Moi, je rebondis bien sur ce que tu expliquais, le fait que tu étais dans une démarche de croissance. Mm. Et que du coup, c'est un peu comme si toute cette croissance était pour avoir un amour de toi, mais du toi idéal qui arriverait après, quand tu aurais fini cette croissance. Quoi.
C'est ça.
Et le problème, c'est que oui, en effet, pendant que tu es en train d'essayer de construire ça, bah t'es pas du tout en train de t'aimer.
T'es pas du tout en train de construire la personne que tu voudrais être, en fait. Ouais. Je l'avais jamais vu comme ça. Mais ouais.
Et donc du coup, bah tu peux limite presque jamais l'atteindre parce que t'es en train de construire un toi avec un autre toi. En fait, t'as un détachement de toi-même et du coup c'est comme si tu te considérais comme quelqu'un d'autre, en fait.
Ça. Et on en revient à ta notion de l'ego. Ouais. De tout à l'heure, où effectivement c'est censé être ton point de repère, et si ton point de repère il n'est pas ancré dans le moment présent, il est ancré dans une idée que tu as plus tard, et au final tu n'as pas vraiment de point de repère.
Parce que du coup tu te projettes en plus dans une personne que tu n'es pas encore.
Complètement.
Donc à mon avis, peut-être que cette dissonance crée justement le côté destructeur de se dire je passe mes journées entières à essayer d'aller en plus le fait, comme tu disais, de faire ça vite, quoi. Ouais. Faut que ça carbure parce que envie de vite pouvoir être moi. Et puis après, quand tu te rends compte que peut-être ça va pas aussi vite et que c'est pas aussi simple, du coup tu te retrouves à devoir te poser en face de toi-même de maintenant et tu fais putain, je suis pas cette personne encore. Du coup cette personne-là elle m'emmerde et du coup on va un peu essayer d'oublier cette personne-là, et pour l'oublier souvent, comme tu dis, comme ça arrive à beaucoup de monde et moi ça m'arrive aussi des fois, aller se mettre une grande cuite
pour oublier,
ou voilà, sortir pour un peu de
remettre à zéro
quoi. Et c'est intéressant parce qu'au final je rebondirai là-dessus par rapport à ce que tu disais sur l'ego, tu vois, on a un point de vue, on a une observation, et là ça rejoint complètement mes questionnements du moment, tu vois, le fait que ton point de vue se porte sur toi-même et aussi sur le monde extérieur. Donc, toi, par exemple, tu peux avoir une dissonance avec toi-même de maintenant, ce qui fait que du coup, tu n'es pas dans l'amour de toi-même et donc du coup, tu veux construire ça.
Ouais.
Et par exemple, dans mon cas, ça serait une dissonance par rapport au monde extérieur. Et donc du coup, je me fais une idée du monde dans lequel j'ai envie de vivre et je vais essayer de faire plein de choses et plein d'activités pour arriver à le construire. Mais pendant que je suis dedans, il y a des fois où je ne vais pas forcément l'aimer. Et du coup, vu que des fois je l'aime pas forcément, j'ai envie de me mettre dans des espèces de bulles où je me déconnecte complètement de ça.
Bah ouais.
Et puis je vais faire les nuits sonores. Et puis on essaye de se mettre sur un mode de non-jugement, en fait, par rapport à ça. Mais c'est super intéressant dans le sens où oui.
Et c'est pour ça qu'il faut faire les choses pour soi. enfin qu'il faut trouver un équilibre. Il faut pas être, en fait je pense qu'il faut trouver un équilibre entre, il faut pas faire les choses que pour soi, parce qu'on peut pas vivre comme ça, il faut pas faire les choses que pour le monde extérieur, mais il faut trouver un équilibre entre les deux. Il faut faire un aller-retour, et on retombe dans cette notion de feedback, et on se retrouve dans cette notion de multibulle où il faut pas que tu fasses, il faut pas que tu fasses que les choses que parce que c'est attendu de toi, mais un petit peu quand même, parce que sinon tu te retrouves en marge de la société et c'est pas une position qui plaît à tout le monde. Mais il faut pas non plus que en faisant ce qui est attendu de toi, et ben tu fasses, tu t'ailles complètement à l'encontre de ce que tu veux toi au fond de ton cœur, et tu peux, et je pense qu'il y a le troisième niveau, la troisième couche qui est effectivement ben le monde, ce monde extérieur, et comment tu veux le changer. Il faut aussi, ça doit aussi rentrer dans l'équilibre, mais il faut là aussi être réaliste, et il faut être aussi comment dire.
Mais c'est là où peut-être que tu as cette notion de, il y a l'ego qui pose un point de vue.
Ouais.
Ce point de vue observe sa propre personne et observe le monde extérieur, et il crée une dualité entre les deux. Il y a moi, il y a le monde extérieur. Donc des fois tu vas pas aimer le toi dans le monde, des fois tu vas pas aimer le monde par rapport à toi, parce que tu continues dans un sens à penser que c'est deux choses qui sont complètement différentes.
Ouais.
Mais en fait c'est juste un point de vue sur quelque chose de complet qui est le monde,
ouais,
dont toi tu fais juste partie. Et il n'y aurait pas de raison de plus favoriser les envies du monde intérieur que le monde extérieur. Parce qu'en fait, les deux sont la même chose, et les deux doivent trouver une harmonie. Donc du coup, ben, c'est justement, comme tu dis, cet aller-retour entre l'extérieur et l'intérieur, et arriver à trouver une non-dissonance, un accord entre les deux. Et du coup, je trouve que c'est intéressant, parce que c'est là où on en revient à la notion de quelqu'un qui est égoïste. Quelqu'un qui est égoïste, ça veut dire qu'il se dit, c'est mon monde intérieur qui prime surtout. Et tant pis pour le monde extérieur. Mais en fait, il oublie que le monde extérieur, c'est lui aussi.
C'est ça.
Et les personnes qui sont dans une fausse notion d'altruisme, qui s'abandonnent complètement, elles, pour tout donner au monde extérieur, elles oublient qu'elles, c'est elles font aussi partie de ce monde. Et que si elles sont mal, et ben forcément, ça affectera le monde, et que ça va aller à contre-courant de ce qu'elles peuvent faire. Mmh. Et puis ça peut rejoindre aussi toutes les choses qui sont liées à ce que Bouddha a pu faire quand il est allé... à plus rien manger dans sa forêt, à se laisser crever, et que du coup il n'arrivait plus à rien atteindre.
Ouais.
C'est qu'au final, les deux sont liés.
J'aime beaucoup cette idée de faussement altruiste, parce que c'est tellement
Pour le lien avec l'amour de soi, je pense que
c'est important. C'est exactement ce dans quoi je me retrouvais en fait. C'est vraiment dans cet état d'esprit où j'étais altruiste pour être altruiste. Et c'est en fait, c'est des trucs complètement malsains où en gros, à 22, 23 ans, j'ai vraiment pris conscience du poids que ça représentait que d'être égoïste. J'ai commencé à voir ça dans mon comportement et à voir ça dans mon modèle de pensée, et j'ai commencé à le bannir. Et j'ai voulu que ce soit quelque chose qui n'existe plus du tout. Mmh. Et du coup, je me suis mis dans un mindset où j'ai pris l'altruisme...
que le monde.
Exactement, que ça. Et en fait, je me suis retrouvé, 4 ans plus tard, à intense dépression, parce que j'avais plus rien à donner. Et du coup, tu peux pas être altruiste quand t'as rien à donner. Ça n'existe pas.
C'est pour ça qu'il faut arriver à avoir cet amour pour soi.
C'est ça.
Et comme ça, tu peux avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir la donner au monde, quoi.
Exactement.
Ok, bon écoute, ouais. Aimons-nous.
Aimons-nous. Aimons-nous nous-mêmes, aimons-nous les uns les autres.
Aimons notre prochain.
Ouais.
Et puis, mais mine de rien, tu vois, encore une fois, il y a quand même des choses qui ont continué dans la religion, qui reviennent sur des choses essentielles. Aime-toi comme tu aimes ton prochain.
Ouais.
Et au final, c'est parce que oui, il y a cette dualité, mais au final, il y a quand même une unité, et une balance à avoir entre l'intérieur et l'extérieur, quoi.
C'est ça.
C'est pas aime ton prochain dans le sens aime tout le monde parce que tout le monde est gentil. Non, c'est pas ça. Ouais. C'est aime ce qui vient d'extérieur et aime ce qui vient d'intérieur. Et au milieu de ça, y aura un déséquilibre qui sera vachement mieux et plus nourrissant, quoi.
Ouais, qui sera, que tu pourras accepter, qui sera plus agréable.
Ok, bah écoute, merci Simon pour
cette
jolie discussion.
C'était très intéressant.
Je pense qu'on était posé au bon endroit pour partir sur cette discussion par rapport au monde extérieur.
Un petit peu de...
Parce que là, quand il fait beau et qu'il fait soleil et qu'il fait chaud, on est quand même mieux
avec
pour dire qu'on aime le monde extérieur.
Ouais,
parce que
c'est plus facile.
Quand il pleut, t'as un peu moins envie de l'aimer, le monde extérieur. Quand même. Mais bon, c'est une information que tu as à prendre aussi, quoi. Ok, bah écoute, merci.
Merci pour l'accueil.
Et puis, je sais pas, est-ce que si les gens ils veulent aller lire des trucs que tu peux écrire ou voir des choses que tu fais, ils peuvent trouver ça quelque part en particulier?
Bah, je vais être actif sur Medium. Vous pouvez me trouver à Simon Amelin.
Medium, c'est une plateforme utilisée. Bah, d'ailleurs, j'utilise pour Nextdoor pour écrire des articles.
Et ben, on est voisins sur Medium, donc on pourra se trouver. Donc okay. C'est Simon Amelin. Et sinon, bah, les plateformes normales, Instagram, LinkedIn, qui sont privilégiées.
Et puis bientôt, peut-être, normalement, un petit événement à Sofa Guillotière pour parler décentralisation.
Même, un événement à Sofa Guillotière. Voilà. Il me semble d'ailleurs que la date est fixée au 13 juin.
Voilà, c'est ça. Il faut juste qu'on profite.
Sans mettre la pression à qui que ce soit.
Pas de problème. Merci Simon.
À bientôt.
Passe un bon week-end.
Merci. Ciao.
Et voilà. Encore une belle discussion. Merci Simon, vraiment. C'était un super moment posé tranquillement dans les pentes de Fourvière. Encore beaucoup d'inspiration, encore beaucoup de réflexion au final autour de l'identité, autour du point de vue. Il semblerait que la dynamique d'Arthur de recherche autour de ça soit quelque chose qui soit beaucoup partagé. Ça m'interpelle aussi sur la discussion qu'on avait eue avec Grégory, l'épisode précédent, tournant autour des biais cognitifs, autour du travail collaboratif. Il semblerait vraiment qu'on soit dans une phase actuelle de très grands chamboulements sur le soi, sur comment est-ce qu'on se voit, comment est-ce qu'on a envie d'interagir avec les autres dans ce monde. Il y a vraiment des nouveaux modèles qui sont en train de se reconstruire. Et puis pour la petite anecdote, je rentre d'une semaine de travail avec un grand groupe français. Et leurs problématiques sont vraiment très très profondes aussi. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire en sorte que les collaborateurs des entreprises puissent arriver à s'exprimer totalement différemment, même si c'est pour faire de la vente en magasin. En fait, la vente en magasin est en train de complètement être chamboulée. Les gens ne veulent plus juste aller acheter. Maintenant, c'est vraiment une interaction qu'ils veulent. Les vendeurs ne veulent plus être vendeurs, mais plutôt vraiment des co-chefs de projet pour arriver justement à avoir ce lien humain. Et puis pour arriver à avoir ce lien humain, il faut aussi avoir de la connaissance pour soi-même. Il faut avoir les bons outils pour pouvoir s'améliorer, découvrir des choses. Enfin bref, il semblerait que ça soit un très très gros chamboulement qu'on est tous en train de vivre en ce moment, ce qui est plutôt passionnant. Et surtout, restons optimistes, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui peuvent aller de travers, comme l'environnement et toutes les complications de la société. Mais il y a aussi énormément de gens qui sont là pour arriver à mettre une dynamique complètement positive. Et j'espère que vous appréciez de les rencontrer dans ces épisodes. Je pense que c'est des personnes qui sont là justement pour arriver à pousser des belles choses. Et Simon en fait partie et je suis vraiment très content d'avoir pu échanger avec lui sur tous ces sujets. Voilà pour les petites histoires. Je vous laisse tranquillement continuer votre dimanche, si c'est dimanche, ou votre nouvelle semaine. Et je vous la souhaite belle et bonne et avec beaucoup de soleil et dans les cœurs comme dans le ciel. N'hésitez pas, encore une fois, à me contacter si vous avez envie qu'on discute ensemble. Et sinon, vous pouvez aussi me suggérer des personnes que je ne connais pas. Et comme ça sera encore plus original. Allez, à la semaine prochaine. Et puis profitez, tout simplement.